L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la boutarde.
Dans une société bien construite, bien rodée, chacune et chacun a son rôle à jouer. Dans une société bien construite, bien rodée, la lumière brille toujours et le monde est confortable. Enfin, dans une société bien construite, bien rodée, les livres, comme les gens, restent à leur place, bien rangés sur les étagères sociales.
Il était une fois, il était un roi, une nuit, traqué dans le dos, c'est qu'il était une fois. Il était ce roi, une vie, mais il était si beau.
Bonjour et bienvenue dans l'Épluche Livre. Nous recevons aujourd'hui à notre table une primo-romancière, Camille Siriex. Camille, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue jusqu'à nous.
Je vous en prie.
Vous avez fait un petit bout de chemin, je crois.
Oui, je viens de Besançon, en Franche-Comté.
Oui, ouais, merci beaucoup. Vous signez aux éditions Mnemos le roman La Dernière Archive.
C'est exact.
Qui est apparu en octobre.
Oui, le 8.
Il y a un petit mois, là, maintenant. Oui, ouais. Un petit mois bien tassé. Donc, ce roman raconte l'histoire de Lali, qui est une jeune femme, qui fait un métier somme toute passionnant, puisqu'elle est archiviste.
Exact.
Donc, nous, les libraires et les archivistes, voilà, une petite accointance, un petit...
Le papier, c'est la vie.
Le papier, c'est la vie, les livres, ça sent bon. Donc, elle est archiviste de métier et elle vit dans la cité de Savert.
Exact, la cité puis de Savert même.
Ouais. Pourriez-vous nous en dire plus, justement?
Alors, la cité de Savert est une cité creusée dans la montagne. Il y a une grosse 500 ans, 600, on ne sait pas exactement, qui a été donc creusée par les hommes, par les fondateurs, pour pouvoir abriter la connaissance et une cité un peu idéalisée. Cité qui est ordonnée donc en strates à fonction de l'état d'avancement où tout début étaient les jardins, les paliers et ensuite pour continuer de l'expansion en montagne, c'est difficile de s'élever donc on va continuer mais vers le bas, ce qui va donner les étages et étage après étage on va creuser du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième avec cette cité qui est assez inversée, qui a commencé donc en palier au sens classique, comme on l'entend, avec les archives, donc au premier palier, le deuxième, le troisième, aussi appelé les jardins.
En prenant de la hauteur.
En prenant de la hauteur, et donc les étages qui, eux, descendent à l'inverse, et qui descendent jusqu'au mystérieux septième étage, qui est plutôt communément appelé le puits.
Qui est plutôt appelé le puits, donc, puisque chaque étage a une fonction, vous venez de le sous-entendre, donc... Oui. Les jardins qui sont au troisième palier.
Au troisième palier, c'est le nourricier, c'est une espèce de rez-de-chaussée, entre guillemets, de ce qui est affleurant, en fait, de la montagne. Le deuxième palier, où nous aurons plutôt tout ce qui va être, la belle bourgeoisie, les castes puissantes, les magistrats de tribunaux, ceux qui dirigent la ville. Au premier palier, nous avons pas la classe ouvrière haute, mais tout ce qui va être orfèvre, les avocats, etc., etc. Premier étage, on commence déjà à descendre un peu plus tôt dans la masse ouvrière et au fur et à mesure de la descente, on va partir sur les fonctions plus support de la ville, les lavandiers, les trieurs. Donc les trieurs, c'est un métier particulier qui est plutôt la poste en fait de Savert, tout simplement. Et à fonction de la descente où on va tomber sur les forges, sur ceux qui vont entretenir les usines d'électricité, etc., etc., jusqu'au puits où on aura les prisonniers qui, eux, vont continuer de creuser, ou qu'on va tout simplement perdre dans les galeries qui ont été creusées, que ce soit naturellement ou par l'humain. Et une fois qu'ils sont perdus, on n'en parle plus, on n'a plus besoin de les surveiller. C'est plutôt pas mal, en fait. Et donc, il y a vraiment ces systèmes de caste qui restent assez poreux dans le sens où rien n'est fermé vraiment, mais ça reste quand même compliqué avec des gardiens aux étages, aux escaliers et une espèce de filtre. Pourquoi monter, exercer son travail au premier, alors que le premier par étage, par exemple, ou au premier palier, personne ne voudrait de vous, entre guillemets.
Très bien. Donc, cette ville que nous allons continuer à explorer, que nous avons la chance d'explorer, puisque, en fait, personne ne peut le faire, à part nous, lecteurs.
Exact.
C'est une ville qui vit en huis clos.
Oui, en huis clos.
Avec une population d'administrés.
C'est exact.
Et non de citoyens.
Oui, ce sont des personnes administrées, donc par les magistrats. Surtout les hauts magistrats qui sont vraiment la tête pensante de la cité, qui dirigent eux-mêmes donc les magistrats, que l'on peut appeler les magistrats des tribunaux, qui seront plutôt ce que l'on a, nous, comme magistrats, donc avec vraiment des juges, etc. Tout ce qui va être ensuite des différents ordres, avec l'ordre tout court, avec un O majuscule qui serait plutôt une police, par exemple. Ou l'ordre des prévôts qui, eux, vont être, par exemple, un maire d'étage qui va rassembler un peu toutes les plaintes de tout le monde. Ce sont toujours des problèmes avec des voisins, de toute façon. ou des prévôts de métier qui, eux, vont être l'espèce de chef de syndicat du métier en question, avec le prévôt des archives, qui est donc Eugène, le prévôt des trieurs, par exemple, ou le prévôt... Il n'y a pas de prévôt chez les magistrats, puisque c'est le haut magistrat qui tient ce rôle, en fait. Et donc, chaque étage a vraiment un peu ses habitudes, ses, un peu ses façons de parler, ses façons de se vêtir aussi, en fonction de... un peu comme d'habitude les pays riches qui renvoient un peu leur poubelle entre guillemets aux pays pauvres, et du coup effectivement tout ce qui ne se met plus au premier palier va descendre en dessous, ce qui se met encore moins du coup à l'étage du dessous va redescendre, etc. Typiquement, si on prend l'exemple d'un beau tissu, d'une belle étoffe, quand elle sera un peu abîmée, on va la passer à l'étage du dessous, et quand elle sera bien abîmée à l'étage du dessous, elle va redescendre jusqu'à descendre au cinquième ou au sixième étage, où là, on va soit la recycler, soit récupérer peut-être que la manche qui fonctionne bien, ou un petit bout de tissu pour s'habiller, etc., etc. Et voilà, c'est une organisation de société exacerbée par rapport à ce qu'on peut avoir, nous, à notre époque actuelle, et ce qu'on a dans le monde, en fait. C'est une espèce de lentille grossissante, et surtout très centrée sur cette espèce de fourmilière qui est Saverre.
Donc, une cité-monde en huis clos, complètement coupée de l'extérieur, un extérieur qui est expliqué comme inexistant, du moins comme en guerre, comme étant fatal pour la santé, par l'environnement, un environnement toxique. Oui. Donc, nous, en tant que lecteurs, on rencontrera très vite Eulalie. Oui. Donc, Eulalie 23 de paix.
Oui, née au 23e cycle et au 2e palier.
Donc c'est même dans l'identité des personnes.
Oui, il ne faut surtout pas se mélanger.
Non, voilà. Donc quand on rencontre Lali, elle est archiviste depuis quelques années maintenant. Oui. C'est une bonne archiviste. Elle est fille de magistrat.
Oui, c'est une transfuge entre guillemets. Une transfuge qui, ne se reconnaissant pas dans le métier de la magistrature, décide de suivre sa voie, et là où elle se sentait bien, à la fois soit au jardin, soit aux archives, elle a préféré suivre la voie des archives, et elle l'a plutôt bien fait, je pense. C'était vraiment un métier pour elle.
Oui, oui. Il me semble aussi. Oui. C'est quand même un personnage, l'un des rares personnages faisant preuve d'une empathie, en fait, d'une empathie hors l'empathie de classe, oui. D'une empathie qui va vers la personne en premier lieu, et non de son origine, de son métier et de son avenir. Donc c'est Eulalie 23 de paix qui nous présente la cité un peu malgré elle, puisque quand nous arrivons dans les archives, quand nous les découvrons, donc c'est vraiment un endroit, une bibliothèque immense, fantastique, alors avec des livres qui ont été amenés parfois à rapporter de l'extérieur, écrits sur place souvent.
Oui, aussi.
Avec donc une culture que nous, on se rend compte à quel point on a de la chance, puisque notre culture est foisonnante, on peut choisir ce qu'on veut apprendre. Là, Eulalie n'en a même pas conscience. Tout ce qu'elle connaît est quand même très guidé.
Extrêmement guidé.
Et ce n'est pas parce qu'elle a accès au livre qu'elle a accès au savoir, finalement. Donc ça, ça va être aussi une des questions de ce roman. Et donc, Eulalie travaille avec Eugène, donc, qui est le prévôt des archives, avec Cléor aussi, qui est sa collègue. Donc, Cléor 23-4.
Oui. Du 23e cycle, née au 4e étage.
Qui, elle aussi, est une transfuge.
Oui et non, elle habite toujours au 4e étage. Après, sa fonction fait qu'elle travaille
aux archives. C'est vrai que Eulalie a dû déménager, donc elle a été déclassée, entre guillemets. Mais bon, déclassée avec certains avantages.
Exact.
Voilà. Tandis que Cléor, elle, est une transfuge de métier, peut-être, quand même.
Plutôt de métier, oui.
Puisqu'elle n'était pas censée, tout comme Eulalie, être archiviste, mais elle monte les échelons, entre guillemets, ce qui est rare dans cette cité. Et nous rencontrons aussi Isabeau 23-5. Alors, c'est là que les choses se corsent.
Exactement. Isabeau, c'est un peu l'électron libre, en fait, des archives. Isabeau est une adolescente énergique. Isabeau est une adolescente qui a la rage de vivre et puis qui trouve ce système de caste justement assez injuste et qui remet l'humain à sa place quand il y a besoin de remettre un humain à sa place. Et en fait, Isabeau vient souvent en contradiction avec Cléor qui, elle, je ne sais pas vraiment si elle a conscience ou non d'être justement de cette transfuge de métier, mais Isabeau veut aussi être transfuge de métier et justement monter même jusqu'à plus haut qu'Isor, Cléor, pardon, pour aller jusqu'au métier de magistrat, simplement. Oui. Et le fait d'avoir peut-être loupé des concours, etc., elle a vraiment conscience, en fait, de ne pas avoir cette chance initiale de pouvoir être magistrat, tout simplement. Mmh. Et donc, veut se donner toute la peine, veut se donner toutes ses chances. Et elle a une soif de connaissance, une envie d'apprendre, une envie de s'élever, une envie de faire bouger cette cité. Qui à la fois déstabilise Eulalie et à la fois la fait grandir. Et c'est pour ça que l'amitié entre les deux est assez fascinante, puisqu'elles ont 6 ans de différence, peut-être plus. Et les deux se font grandir mutuellement, se questionnent mutuellement, mais Isabeau a plus tendance à secouer Eulalie que l'inverse.
C'est vrai, puisque là où Eulalie pense connaître et pense avoir accès à la culture, parce que ça lui est donné, ça lui a été expliqué et inculqué comme étant donné dû à son rang, Isabeau arrache.
Exact.
Elle arrache ses connaissances à un monde qui ne veut pas lui en transmettre, et donc elle dévore, avec son regard, avec les connaissances qu'elle a elle-même de sa classe. Et c'est vrai que ces deux personnalités qui pourraient être complètement antagonistes, qui finalement sont très amis, et pousse le lecteur, enfin en tout cas dans ma lecture, à me questionner sur l'accès à la culture et ses enjeux. Oui. Donc c'est un vrai questionnement en librairie, et c'est un questionnement qu'on retrouve vraiment en étant attentif, en lisant un petit peu entre les lignes de votre ouvrage. Donc là, on vient de visiter Saver, on vient de découvrir 3 des personnages clés de votre livre. Il y a quand même un enjeu, il y a quand même une intrigue. Cette lumière qui s'éteint dès les premières pages. De mémoire d'homme, la lumière a toujours brillé dans sa verre, peu importe les niveaux.
Oui.
Cette lumière s'éteint à peine quelques secondes, mais c'est annonciateur d'un drame, puisqu'un corps va être retrouvé.
Oui, un corps a chuté dans les ventilations de Saverre. Donc effectivement, Saverre est vertical et à l'air libre. Donc il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de dôme. C'est vraiment l'air froid rentre l'hiver, l'air chaud rentre l'été. Mais pour pouvoir acheminer l'air jusqu'en bas et pour pouvoir évacuer tout ce qui va se passer, on a des colonnes de ventilation qui vont partir de partout dans la cité avec des ventilateurs, etc. Et il s'avère donc que, au tout début du roman, même juste avant, à la seconde avant que le roman débute, quelqu'un, un corps, chute dans une de ces ventilations depuis la hauteur des archives jusqu'au bas en fait, de Saverre. Une chute donc absolument phénoménale qui endommage un des ventilateurs, provoque une surtension. Et plonge la ville dans le noir, ce qui tétanise tout le monde, en fait. Et l'absence d'identité de cette personne est au cœur, en fait, du début de ce roman. Puisque déjà, dès les premières pages, Cléor et Isabeau se disputent pour savoir mais était-ce qui était-ce, était-ce un homme, était-ce voulu, était-ce pas voulu.
Tout à fait, puisqu'il y a deux grandes théories. C'est un accident, ou ce n'est pas un accident, voilà. Et on l'a poussé. Et même la notion de meurtre dans Saverre, c'est pas quelque chose qui... du quotidien, loin de là. Hein. Il y a des délits, il y a des crimes, mais en général, les gens, quand ils doivent disparaître, le font discrètement.
Exact.
Sur ce, nous laissons les auditeurs méditer cette ambiance et nous passons à notre petite pause musicale. Vous écoutez Les Pluches Livres, nous sommes en compagnie de Camille Siriex qui nous parle de son ouvrage La Dernière Archive. Nous venons d'écouter un morceau musical, Camille. C'est quelque chose que vous avez choisi, pardon, je vous laisse nous en parler.
Alors, ce morceau s'appelle Sénescence. Il a été composé, j'imagine, par Isaac Wolf, qui est visiblement un compositeur de musique qui sévit sur YouTube principalement. Voilà, alors c'est pas sur YouTube que je l'ai trouvé, mais ça fait partie des musiques de fond de mon écriture de La Dernière Archive. Avec plus d'une cinquantaine d'autres. J'écris beaucoup sur de la musique, la musique d'ambiance, la musique qui va teinter en fait mes scènes. Et donc si je sais que j'écris tel ou tel type de scène, je vais chercher la playlist qui va bien. Et c'est vrai que c'est naissance pour toutes les... à une espèce de fond très atmosphérique, très particulier, à la fois intrigante et atmosphérique, qui fait que je trouve qu'elle rentre très bien en fait dans, justement dans cette exploration des archives, mm-hmm. de je ne sais pas ce qui se passe, au détour du couloir, que vais-je trouver, vais-je trouver le livre que je cherche, ou est-il encore pas rangé à sa place, enfin bref. Et ça fait partie en fait de ces musiques qui me restent en tête au niveau de la dernière archive, avec d'autres hein, qui sont venus, d'autres sur la correction, où on aime bien avoir quelque chose de très hypnotique pour rester concentré, enfin surtout moi. Et voilà, je trouve que ces naissances, si, et puis d'ailleurs si je me souviens bien, ces naissances, c'est une destruction cellulaire. Alors, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais ça me remonte à des cours de biologie qui sont très lointains. Mais c'est de la destruction cellulaire et quelque chose d'un peu, justement quelque chose qui se délite. Et le monde se délite un peu autour de la lie. Donc,
quelque chose un peu pourrissant.
Exactement.
Qui va se déliter, mais qui ne sera pas sans conséquences. Oui. Donc c'est une écoute que vous conseillez à la lecture de votre livre ?
Oh, complètement, oui.
Super.
En plus, elle fait 8 minutes.
Parfait.
Pile poil pour un chapitre.
Oui, pile poil pour un chapitre, oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Hein. Alors, ça se lit très très bien, mais on est à 407 pages.
Oui.
Voilà. C'est pas un souci.
Ah, on me dit souvent
franchement
que,
pas un souci.
Elle s'enchaîne très vite, on a du mal à le poser pour aller dormir.
Oui, il y a un bon rythme dans la narration. Oui. Ouais, sans souci. Donc, ce genre de musique d'ambiance, justement, d'atmosphère, c'est quelque chose qui apportait votre écriture, qui apportait le processus créatif, d'après ce que vous disiez ?
Oui. Globalement, l'écriture, c'est elle qui va me teinter, par exemple, Alors, la musique ne va pas forcément me donner la disposition de la pièce, mais va m'aider à trouver, justement, le mot juste. Ça, est forcément un dictionnaire des synonymes. mais c'est vrai que une bonne ambiance, je trouve, musicale, m'aide à rédiger des chapitres et à me porter la bonne humeur dans le chapitre, va porter la bonne teinte dans les dialogues. Essayer de faire un dialogue sérieux sur de la lambada, c'est compliqué. J'ai essayé.
Alors, c'est un exercice que vous pouvez reproduire à la maison.
Vous pouvez essayer, puis vous me direz.
Venez à la librairie nous faire un petit retour de la création.
Et c'est vrai que ça permet de teinter l'humeur et justement de me reconcentrer très rapidement et de retrouver potentiellement aussi le niveau qui va... Enfin, quand je dis le niveau, ça peut être l'étage ou le palier qui va bien. Oui. Et c'est vrai que celle-ci, je la jouais plutôt dans les étages du bas. Pour les jardins, ce sera peut-être plutôt quelque chose d'atmosphérique ou quelque chose de plus joyeux.
Parfois avec des sons, c'est-à-dire pas forcément une musique au sens instrumental, mais parfois avec des sons d'oiseaux, par exemple, pour les jardins.
Même non. Vraiment, moi, il me faut, je sais pas, c'est une base musicale qu'il me faut. Comme je disais tout à l'heure, enfin, j'ai écouté une des précédentes émissions, je me retrouverais très fortement dans ce que disait la personne. J'ai mangé son nom. Il ne faut pas qu'il y ait de paroles, ou alors pas des paroles que je comprenne, donc pas de français.
C'était Nicolas Nutten, je crois.
Oui, exact. Donc pas de français, des musiques en anglais, des paroles en anglais, mais si possible, pas de paroles du tout pour pouvoir justement me noyer, me dissoudre en fait dans la musique et puis d'être transportée et d'être dans ce que j'écris complètement. Et donc ces naissances fonctionnent très bien. Enfin, il y en a d'autres. Hein, mais j'ai des playlists pour tout type de scènes, de toute façon, tout type de niveau. C'est toujours un bon moyen de procrastiner aussi, de préparer ses playlists.
procrastination, mais voilà,
c'est utile.
Voilà, c'est pas inutile, je pense. En tout cas, on l'a bien compris pour vous, l'art de création est lié à une ambiance sonore, une ambiance musicale. Maintenant, grande question. Camille Siriex, comment crée-t-on un monde ? Puisque c'est ce que vous avez fait dans ce roman.
Oui. Savère a été, a eu un long processus de gestation, on va dire, avec le recul que j'ai maintenant, j'arrive à identifier très précisément les sources en fait qui m'ont permis de construire cette cité. Au tout début, était un pentagone plat. Et au fur et à mesure, la cité s'est creusée, en fait, avec mon imaginaire. Enfin, surtout dans mon imaginaire, avec tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu emmagasiner, en fait, comme visuel, comme imaginaire de d'autres lectures. Typiquement, en science-fiction, je vais penser à la série de L'Incal de Jodorowsky et j'ai mangé son nom aussi, donc de Jodorowsky, et en fait dans cette sur une de ces donc c'était un space opéra, on peut dire, avec des planètes et sur lesquelles, pour loger le plus de monde possible, en fait on va tout simplement creuser des cités puits, mais des cités puits qui sont vraiment technologiquement avancées, etc. On n'en est pas à ce point là dans Saver. Et donc j'avais aimé cette lecture quand j'étais adolescente, et en fait je pense qu'elle a eu le temps d'infuser, et un jour j'en ai eu besoin, enfin mon imaginaire en a eu besoin, et donc la récupérer. J'apprécie aussi énormément de tout ce qui va être un peu victorien, très steampunk, etc.
Il y a ce côté là aussi dans certains étages.
Oh oui. et donc ça c'est des choses qui en fait se mélangent toutes seules et qui un jour viennent. Puis après c'est un peu un art d'assembler ça, et c'est un peu comme le cuisinier qui va vous donner une recette et puis qui va savoir la refaire et puis qui aura un goût spécifique, et nous avec notre recette on va essayer de la refaire sa recette et on va jamais arriver au même résultat, donc avec les mêmes ingrédients un autre auteur n'aura pas forcément les mêmes résultats que moi. Et je sais que Saver a été creusé comme ça, et il y a aussi beaucoup de enfin, je me suis un peu posée, là où je me suis posée le plus, c'était pour les prénoms, parce que les prénoms donc sont très spécifiques, comme on l'a dit, chaque étage a donc sa référence, mais on a aussi donc une lettre qui permet d'identifier l'année de naissance de la personne, un peu comme les animaux, effectivement, ça, je me suis inspirée de ça. Et donc je suis partie en fait d'un prénom que j'aimais bien, j'appréciais ce prénom-là, donc j'ai dû broder autour, et ça a vraiment été un moment de création. Et donc, voilà.
Ce premier prénom, c'est Eulalie ?
Thibault.
Ah, Thibault, alors
oui,
on n'en a pas parlé, mais...
c'est donc l'enquêteur, qui va venir relier en fait un peu le corps
En tout cas, il va mettre son nez dans les archives.
Exactement.
Alors que c'est pas une pratique courante, et ça va un petit peu déranger, droite à gauche.
Exactement, mais toujours son nez où il ne faut pas, sinon il n'y aurait pas d'intrigue, voyons. Mais oui, Thibault a été un des premiers à venir. Eulalie est venue aussi derrière, et Augustin, je savais que son grand frère s'appellerait Augustin. Et donc on a toutes ces espèces de strates, de couches. Enfin, j'avais un petit peu un point de départ, et après il fallait broder un petit peu comme une araignée ou...
Nos anciennes brodeuses, quoi. En fait,
j'ai tissé ma toile autour de certaines choses, et parfois je rencontrais un os un petit peu compliqué à ranger, et du coup il fallait se poser pour discuter, enfin pour aller un peu plus loin. Et typiquement le réseau de triage, donc comme je disais, la poste tout à l'heure, c'est la scène qui m'a marquée quand j'étais enfant, parce que c'était la seule que j'avais vue de ce film, Brasil de Terry Gilliam. Oui, je crois que c'est, ou c'est l'acteur principal, je ne sais plus, ça remonte à loin. En fait, j'avais vu que la scène où cet acteur, à ce moment-là, enfin le personnage de Sam Lowry, je crois, se bat contre des pneumatiques qui n'arrêtent pas de sortir de son tuyau de pneumatiques, en fait des messages qui arrivent en continu et qui finissent noyés sous un... Et ce réseau de pneumatiques, en fait, je savais qu'il fallait que je le mette là.
D'accord.
Et puis après, j'ai brodé un peu les guitounes, etc., pour pouvoir récupérer son courrier, etc. Et vraiment, Saver est un assemblage de beaucoup de choses, de besoins techniques que j'ai eus, autant pour servir l'intrigue que pour dénouer des nœuds que j'ai soit moi-même construit en essayant de faire quelque chose, alors je n'avais pas la base, donc il a fallu que je crée la base a posteriori, ou des bases que j'ai anticipées et que j'ai peut-être qu'effleurées finalement dans l'écriture de la dernière archive. Alors que j'ai le matériel pour peut-être développer encore plus.
C'est foisonnant en tout cas.
Oui.
D'après ce que vous dites, donc si je peux résumer pour la dernière minute qui nous reste ensemble. Oui. Donc vous, le processus de création n'est pas chronologique, n'est pas linéaire. C'est au contraire tout un monde, tout un assemblage, une pièce de tissu en tout cas que vous cousée petit à petit.
C'est exact.
Et parfois, on loupe un rang où il faut...
Oui, et ça, c'est la galère.
Et ça, c'est la galère. Et en tout cas, ça donne un univers hyper cohérent à lire, hyper agréable, très rythmé dans la narration. C'est un livre qu'on défend à la librairie, qu'on défendra là pour la fin d'année, bien sûr.
Merci.
Et qui est à lire, sincèrement, de 14 à 110 ans.
Ah, oui, moi, 114.
Sans problème,
mais...
114 ans. Voilà, et c'est vraiment... c'est une chouette découverte. Hein. On est ravis de défendre votre travail à la librairie. Je vous remercie et je remercie aussi la première chienne. Alors, du monde, je ne sais pas, mais en tout cas de cette émission, à être présente puisque vous êtes venue accompagner...
Oui,
de...
avec Ula.
Ula, voilà.
Qui est restée très sage.
Qui est restée très sage. Hein. À tout moment, on l'invitera, on la réinvitera.
Ah oui, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de choses à dire, mais elle pourrait être très sage dans son coin, encore une fois.
Ou elle posera sa patte à un endroit peut-être crucial du texte ou de la rencontre. Merci beaucoup.
Mais c'est moi, merci beaucoup.
Et à très bientôt, chers auditeurs, sur L'Épluche Libre.
L'Épluche Libre.
Avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange
des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.